La musique classique est un art qui est loin d'être figé. De tout temps, les sons, les intentions, mais aussi les rapports entre la musique et les musiciens n'ont fait qu'évoluer. Un compositeur du XVIIIe siècle, par exemple, ne voyait pas la musique comme on peut la voir aujourd'hui. Et quand il écrivait, ce n'était ni pour les instruments que l'on connaît, ni pour les lieux que l'on fréquente. Jusqu'il y a peu, cette réalité ne dérangeait pas grand monde. Les musiciens ne différenciaient pas les époques, ils interprétaient les chefs-d'œuvre du passé avec les instruments d'aujourd'hui.
Mais c'est dans les années 60 que les choses changent. Une idée prend alors de plus en plus d'ampleur, celle de pratiquer la musique des siècles précédents à la manière des musiciens d'époque. Le tout en reproduisant au mieux les sonorités du passé. Jacques Magnette, facteur de clavecin, nous explique les raisons d'un tel revirement.
Rejouer la musique sur les instruments pour lesquels ça a été composé permet de retrouver toutes les intentions et tout ce que voulait exprimer le compositeur. Et donc, jouer Bach sur un piano, mais on perd toute une série d'éléments que Bach voulait entendre et faire entendre par sa musique. Et donc, le fait de les rejouer sur des instruments tels que Bach pouvait utiliser, je pense que c'est une bonne idée en soi.
Dans les minutes qui vont suivre, nous nous pencherons sur les instruments baroques que l'on construit aujourd'hui, mais aussi sur un mouvement désireux de retrouver les intentions des compositeurs, le mouvement dit des baroqueux.
La période baroque s'étend de 1600 à 1750. Cette époque marque un tournant dans les conceptions de la musique classique. Les compositeurs souhaitent alors exprimer des sentiments dans leurs mélodies. De nouveaux styles expressifs apparaissent, l'opéra et le concerto font partie de ces nouveautés. Le timbre des instruments de cette époque reste très différent de celui des instruments d'aujourd'hui. Jacques Magnette illustre cette différence sonore au clavecin et au piano.
Quand on voit un clavecin de l'extérieur, ça ressemble un petit peu à un piano à queue. Et c'est pourquoi beaucoup trouvent que le piano et le clavecin sont deux instruments de la même famille. Mais quand on s'y penche d'un peu plus près, on voit que le clavecin produit son son non pas par un marteau qui vient frapper une corde, mais par un petit bec qui accroche la corde. Et donc, ça ressemble beaucoup plus à un ongle qui accroche une corde de guitare.
Voilà. Donc ici, il s'agit d'un clavecin français. Alors on voit qu'en appuyant sur une touche, ça soulève un sautereau qui, équipé de son bec, vient accrocher la corde. Un piano, lui, lorsqu'on appuie sur la touche, on actionne un petit marteau qui va venir frapper sur trois cordes et donner ceci.
Campana Hertz, professeur de clavecin, nous donne un aperçu de la magie émanant de ce noble instrument.
Les ensembles de musique baroque étaient composés d'instruments qui ont été abandonnés au fil du temps. Parmi eux, la viole de gambe, un instrument que nous pourrions comparer au violoncelle et qui a connu son heure de gloire entre 1550 et 1750. L'artisan François Baudard recrée depuis de nombreuses années ce type de viol. C'est depuis la quiétude de son atelier d'Andenne qu'il met tout son savoir-faire en œuvre pour donner naissance à ses instruments ancestraux. Et c'est là, au milieu des Ardennes, qu'il nous explique son parcours.
Bonjour, entrez.
En prenant des informations à gauche, à droite, en ayant des conseils, en montrant les instruments que je faisais, ben j'avais oui, des remarques qui m'aidaient à progresser, mais en fait, oui, je suis autodidacte. Moi, j'essaie de rester dans l'esprit de ces instruments, et c'est sûr que bon, les musiciens sont aussi très attachés à ça.
François Baudard a appris par ses propres moyens les techniques de création de la viole de gambe. Son but est de rendre son lustre et sa notoriété à la viole de gambe tout en respectant les techniques qui firent le succès de l'instrument dès le milieu du XVIe siècle. C'est son amour inconditionnel pour cet objet qui l'a poussé à persévérer dans ses recherches.
Ce que je trouve intéressant, c'est que bon, cette musique, quand c'est joué par quelqu'un qui domine tout à fait la technique, qui a un bon instrument, qui... Et dans une acoustique intéressante, ben, il y a quand même quelque chose qui se passe. J'ai été toujours très touché par par ces atmosphères sonores, quoi. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de pouvoir continuer à faire découvrir et à jouer cette musique. Donc pour moi, c'est très contemporain comme acte.
Mais que dire de l'aspect extérieur, de l'esthétique, de la beauté de ces instruments baroques ? En se promenant dans les couloirs des musées, on s'aperçoit que les instruments baroques sont ornementés de peintures ou de gravures. Ces instruments sont d'une beauté rare. Les peintres de l'époque baroque se servaient d'ailleurs de ces instruments comme support à leur création. Il y a matière à se demander si les instruments baroques construits aujourd'hui continuent à être aussi bien décorés que ceux exposés dans les vitrines des musées. Jacques Magnette nous parle de son expérience pour le clavecin.
On ne fait pas souvent des clavecins avec marqueterie parce que la demande est beaucoup moins importante. Lorsqu'un enfant désire faire du clavecin, apprendre cette belle musique, bien évidemment, il faut commencer par un instrument relativement simple et peu onéreux pour les parents. Et donc, on va essayer de supprimer tout ce qui n'a pas vraiment une raison d'être. Un élève débutant, quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, ne va pas au départ faire l'investissement d'un instrument particulièrement soigné. Si ce n'est pour le son, évidemment. Et là, on ne peut pas faire de compromis. On ne peut absolument rien laisser passer. La mécanique doit être impeccable, le son doit être impeccable.
Anne-Emmanuelle Kellemans, responsable de la section des instruments à cordes au Musée des instruments de musique de Bruxelles, nuance l'idée selon laquelle tous les instruments baroques étaient décorés comme ceux conservés dans les musées.
Les instruments qui sont aujourd'hui conservés dans nos musées, ici mais aussi dans les autres musées d'instruments de musique, ce sont forcément les instruments les plus beaux de leur époque. Parce que visuellement, ce sont des instruments qui ont un certain attrait, qui sont éventuellement faits dans des matériaux précieux, de l'ivoire, des bois exotiques. Et donc, ces instruments ont toujours été préservés et sont arrivés finalement dans un musée. Mais il faut bien se dire qu'il existait des tas d'instruments nettement plus ordinaires qui ne sont peut-être pas parvenus jusqu'à nous. Et si on avait une image plus globale de ce qu'était la moyenne des instruments au XVIIIe siècle, on n'aurait peut-être pas l'impression que ces instruments étaient aussi individualisés, aussi ornés, aussi personnalisés que l'impression que nous avons aujourd'hui.
Les musiciens qui jouent aujourd'hui sur des instruments baroques éprouvent un réel plaisir à faire partager la musique et les timbres de cette époque. Cet intérêt a pris de l'ampleur dans les années 60 avec le mouvement dit des baroqueux. Pour eux, il s'agit de retrouver les intentions du compositeur. Geert Robrecht, administrateur de l'orchestre baroque La Petite Bande.
Ce qui est très important pour les baroqueux, c'est la recherche en l'authenticité. Mais c'est un peu quelque chose d'abstrait. L'authenticité, c'est quoi ? En fait, c'est une sorte d'attitude où on veut venir le plus proche que possible avec l'univers que le compositeur a connu au moment qu'il a écrit une certaine œuvre. On ne peut pas comprendre la musique tant qu'on n'a pas pris en charge, pris en connaissance tous les éléments qui était dans l'univers de ce compositeur. Pas seulement la tonalité, mais aussi, par exemple, le lieu où cette musique a été exécutée, parce que ce compositeur a connu ce lieu et a écrit avec l'acoustique de ce lieu en tête. C'est donc vraiment ça qui est vraiment la recherche d'authenticité. Pas pour être de plus en plus historique, non. Pour pouvoir faire de mieux en mieux cette musique d'une façon artistique, d'une façon parlante.
Des musiciens comme Sigus van Kuijken, le chef d'orchestre de l'ensemble baroque, La Petite Bande, poussent parfois le souci à son paroxysme. En effet, ce dernier tente à chaque instant de se rapprocher de l'esprit du compositeur. Geert Robrecht nous explique une des méthodes utilisées par Sigus van Kuijken.
La première source qu'on a, ce sont les partitions. Parfois, comme dans le cas de Bach, ça restait des manuscrits. Quand Sigus van Kuijken joue les partitas pour violon seul, il préfère de jouer d'une photocopie du manuscrit de Bach, parce qu'alors, à ce moment, il peut se faire inspirer par l'écriture, par la même du maître.
La volonté de se rapprocher de l'authenticité de la musique baroque est donc très présente. Mais est-ce vraiment un but réaliste ? Nous ne possédons aucun moyen de vérifier la concordance des sons entre la musique du passé et celle d'aujourd'hui. S'il est possible de recréer des instruments fidèles au modèle du passé, la structure des instruments n'est pas le seul critère à prendre en compte. Anne-Emmanuelle Kellemans nous donne son avis.
Nous ne sommes tout simplement pas des auditeurs de l'époque baroque. Donc, à supposer même qu'on arrive à l'idée tout à fait utopique de reconstituer un instrument parfaitement à l'identique avec un musicien qui joue de façon tout à fait baroque, est-ce que nous allons pouvoir entendre cela d'une façon baroque ? Rien ne permet de le penser. Mais ce n'est pas parce qu'on se fixe un idéal qu'il ne faut pas essayer. Le mouvement qui a été initié dans les années 70 par les baroqueux est remarquable parce qu'il nous a fait découvrir des sonorités nouvelles, nous a fait redécouvrir une musique qui était devenue un peu quand même sclérosée. Donc c'est assez remarquable, mais il faut quand même toujours savoir que ça reste une utopie.
Mais laissons de côté l'authenticité et tournons-nous vers le public. Quelle est sa réaction face à ce type d'interprétation ? La démarche des baroqueux a-t-elle un avenir ? Geert Robrecht.
Chaque année, on trouve encore d'autres choses. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'avec la musique baroque, on a créé un nouveau public. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent la musique classique et qu'il y a vraiment un créneau qui n'écoute que les collégiums vocales et la petite bande de ce monde. Donc, moi, je crois vraiment que cette musique est là pour rester. En plus, il y a encore chaque moment des nouvelles découvertes à faire.
Ce n'est donc pas en vain que les baroqueux se vertuent à faire revivre la musique baroque et ses instruments. Même si leur quête est comparable à une histoire sans fin, l'important n'est pas le but à atteindre, mais le chemin parcouru. La musique ne fait qu'évoluer et le retour aux sonorités baroques lui donne de nouvelles couleurs. Quelle direction va-t-elle prendre maintenant ? Nul ne le sait. Mais peu importe, seul ce qu'on en fait est important. La musique est un élément modelable à souhait, et l'homme, lui, n'a pas fini de s'amuser.